Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Les couilles sur la table, épisode 4. Dans ce quatrième épisode, on va aborder la question des masculinités noires. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme noir en France aujourd'hui ? Bonjour Insa Sané.
Bonjour.
Et bonjour D de Cabale.
Bonjour.
Ou plutôt D.
De Cabale aussi, c'est au choix.
Ok. Insa Sané, vous êtes écrivain, comédien, vous avez 42 ans, vous êtes l'auteur de Comédie Urbaine, une série de 5 romans, dont le dernier est paru cette année. Et D, vous êtes musicien, acteur, écrivain, vous avez 43 ans. Dans les années 90, vous avez fondé le groupe de hip-hop Cabale, et puis vous avez vite commencé à faire du théâtre. Vous êtes connu pour votre voix très particulière avec un timbre guttural. Vous êtes, comme vous dites, le père multirécidiviste de 4 enfants.
C'est ça. Je ne les ai pas fait tout seul. Hein.
Deux filles de 17 et 15 ans et puis de deux fils de 19 et 9 ans. Et ça, on va en reparler. Alors, vous avez tous les deux contribué à l'ouvrage Marianne et le garçon noir. C'est un ouvrage collectif qui vient de paraître chez Fayard sous la direction de Léonora Miano. C'est un recueil de textes sur un sujet qui n'est jamais abordé. C'est celui des masculinités noires. Pour commencer, peut-être qu'on peut faire un point avertissement vocabulaire, puisque j'ai dit dans la bande-annonce que j'étais blanche. Ça a choqué des auditeurs et des auditrices. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette question de vocabulaire ?
Déjà, c'est bien que vous utilisiez le terme blanc, noir. C'est plus juste que beurre, black, ça correspond à rien du tout. Ça correspond à un fantasme du petit village dans les nuages qu'a contribué à créer SOS Racisme, le Parti Socialiste, etc. C'est qu'on enferme des gens dans des valeurs et dans des termes politico-correct pour surtout pas parler de leurs réels problèmes.
Donc on dit black, on dit que
quand
blas,
on dit black,
Renoir.
Que blas, tout ça, c'est pas, je me reconnais pas dans ça et je veux pas que mes enfants se reconnaissent dans les termes black ou beurre, etc. Je préfère qu'on dise de moi que je suis noir, même s'il y a plusieurs noirs et que un noir, il y a plusieurs types de noirs, il y a plusieurs cultures noires et qu'on n'enferme pas malheureusement les noirs dans un continent qui s'appelle l'Afrique et qu'on en ferait une unité et que cette unité n'aurait vocation qu'à être une sous-entité de culture.
D'accord, donc on dit noir.
On dit noir.
Et vous, D ?
Ça me va très bien.
D'accord. Un autre terme qui est aussi souvent utilisé dans les recherches et par les chercheurs et dans les sciences sociales, etc., c'est le terme de race au sens de construction sociale. On dit aussi racisé. Est-ce que c'est OK ce vocabulaire-là ou qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, racisé, je suis un peu plus frileux, même si je trouve intéressant que ce soit une terminologie, une appellation qui vienne de personnes qui s'estiment racisées. Donc je trouve ça intéressant que ces gens-là disent « je veux qu'on m'appelle comme ça ». Donc voilà, moi étant donné que les gens ont toujours eu du mal à dire black, noir, etc., j'interdis à quiconque qui ne me connaît pas de dire toi le racisé, quoi. Voilà, c'est un truc, on n'est pas familier à ce point-là. Mais moi j'entends ce terme comme un terme qui est né d'une volonté de se définir avec ses propres mots par un groupe d'individus, donc ça me va aussi très bien.
Insa Sané, il y a une phrase qui revient très souvent dans votre texte, vous écrivez « être noir, ça se vit, ça ne se raconte pas ».
Ça ne se raconte pas parce que la plupart du temps, quand tu exposes les faits à quelqu'un qui n'habite pas ton environnement, la personne reste dubitative. La première fois que j'ai rencontré un journaliste pour lui dire, comment se passent les contrôles d'identité, voilà comment se passent les gardes à vue, voilà ce qu'on vit dans les quartiers populaires en France lorsque les flics débarquent, ce à quoi on peut être confronté. Ces journalistes-là, cette journaliste-là en particulier, a semblé croire que j'étais dans le mensonge, que j'inventais les choses,
que
j'exagérais. Le simple fait d'avoir de passer la nuit en garde à vue et de sortir de garde à vue avec la main complètement brûlée parce que les flics ont écrasé leur mégot de cigarette sur la main, bah ça c'est un mythe pour la plupart des gens. Le simple fait de prendre de ramasser des gamins et de les mettre dans le coffre de la voiture de police, c'est un mythe. Que des policiers, notamment un flic lorsque j'habitais à Sarcelles, qu'on appelait sirofrappé, débarqué dans le quartier et sortait son flingue et menaçait des jeunes qui n'avaient strictement rien fait en plein milieu du quartier en disant « maintenant c'est moi qui fais la loi ici ». Voilà, c'est des choses. Je pense que dans le centre-ville de Paris, on ne vit pas ça, donc on n'arrive pas à s'imaginer. On pense que c'est que dans les films.
Enfin, on ne vit pas ça dans le centre-ville de Paris et aussi en fonction de ce à quoi on ressemble, puisque... est-ce que c'est par exemple une exagération de dire qu'il n'y a aucun homme noir qui n'ait été un jour contrôlé par la police ?
Ça dépend où il habite. Bien entendu que si je suis le fils de l'ambassadeur, il y a très peu de chances pour que je sois contrôlé, ou sinon c'est que c'est un accident. Les accidents sont possibles, mais quand il y a la récurrence, quand il y a des millions de gamins qui témoignent et qui disent bah moi le même flic me contrôle 3 fois par jour, c'est plus un accident à ce niveau-là. Passer du temps à discuter sur les accidents, c'est possible. Mais bon, le reste du temps, quand j'ai appris que j'étais noir, c'est en arrivant en France.
Justement, à quel moment, c'est une question que j'aurais vous poser à tous les deux, à quel moment vous avez su que vous étiez noir ? D.
Moi, c'est souvent une raillerie auprès de mes potes et des gens qui me connaissent depuis longtemps. Moi, j'avais 24 ans. C'est quand on attendait notre premier enfant, en fait. Et que je me suis posé la question de qu'est-ce que j'avais à transmettre ? Moi, j'ai grandi à Bobigny, dans un quartier qui s'appelle l'Abreuvoir, où on est très mélangé. Et j'ai grandi au milieu de Portugais, de Maghrébins, d'Asiatiques, de Mauriciens. Et donc, nous, on était. Puis il y avait ce truc, les gens de notre génération disent souvent ça, on n'avait pas de couleur entre nous, quoi. On était vraiment. Et puis, en plus, comme nous tous, on était stigmatisés dès qu'on franchissait le périphérique, on était une espèce comme ça de communauté particulière. Et c'est vrai que quand à l'aube d'être père, quand se sont posées les questions de qu'est-ce que moi je vais transmettre dans mon histoire, dans mon patrimoine, il y a eu un flash, un truc, quelque chose qui est remonté et qui m'a fait moi me poser des questions sur qu'est-ce que ça voulait dire d'être antillais, martiniquais, les spécificités de cette identité-là. Et c'est là que j'ai compris que j'étais noir et que ça avait un sens, quoi. Donc assez tard, en fait.
Et vous ?
Déjà, quand j'étais tout petit, mes parents sont venus s'installer ici en France. Donc, je suis resté un certain temps sans ma mère et sans mon père. Et un jour, j'ai vu débarquer une voiture, un 4x4, près de ma concession familiale. Et les enfants, mes cousins avec lesquels je jouais, disent « Bah, nous, on rentre à la maison, on va voir nos mères. » Et là, ils me regardent et me disent « Mais toi, t'as pas de mère ?» Et je vois une blanche qui descend du 4x4. J'ai dit « Si, j'ai une mère, c'est elle qui est là-bas ». Et se sont mis à rire. Et j'ai mis du temps à réaliser pourquoi ils ont rigolé. Je ne comprenais pas, c'était une femme. Donc si c'était une femme, je ne comprenais pas pourquoi ils trouvaient ça drôle que ça ne puisse pas être ma mère. Quand je suis arrivé en France, j'ai su pourquoi, j'étais noir. À peine quelques mois après mon arrivée, je m'étais un peu éloigné de mon immeuble. Et puis, je suis passé près d'une maison sur le bord de la route. Et un chien s'est mis à gueuler. Donc, j'ai changé de trottoir. À ce moment-là, les propriétaires et leurs enfants, les propriétaires de la maison et leurs enfants sortent de chez eux et m'encerclent et me disent « Pourquoi tu fais gueuler mon chien ?» J'ai pas fait gueuler, je m'excuse, etc. Ils m'attrapent et ils me jettent dans un tas d'orties et ils me disent « Ça t'apprendra, sale négro. » Donc, c'est à ce moment-là, concrètement, que j'ai su que j'étais noir. Il y a quelque chose de l'ordre du danger quand on rencontre, de l'ordre du danger et de l'insécurité. Quand on rencontre le blanc plein de haine, quand on rencontre le blanc bête et méchant et qui ne voit que notre épiderme et qui ne voit que la couleur de notre peau et qui veut absolument qu'on ait peur de lui sans doute parce qu'eux-mêmes ont peur de nous.
La peur, c'est vraiment une émotion et un sentiment qui est extrêmement présent dans tous les textes de ce livre. Je trouve autant la peur que les hommes qui parlent dans le livre disent inspirer aux autres, ils constatent qu'ils l'inspirent, et aussi la peur qui les habite et qui vous habite. On va y revenir juste après. Je voulais évacuer et balayer en les nommant toutes les images et les fantasmes qu'on a des hommes noirs. Comment est-ce que la société française voit les hommes noirs en France, globalement ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
C'est une question qui est délicate parce que je pense que notre regard, avec les années, s'aiguise et se modifie. Ce qui, moi, me semble certain aujourd'hui, c'est que le corps de l'homme noir est hyper sexualisé. Et que c'est un objet. On en fait un objet de désir, on en fait un étendard, on en fait un épouvantail. Voilà, il sert soit à repousser, soit à apaiser. On veut en faire un guide. Ce n'est pas anodin. Il ne peut pas être neutre. C'est-à-dire qu'un corps noir, quand il est dans l'espace public, on veut lui faire dire quelque chose automatiquement parce qu'il est un corps noir.
Alors qu'un corps blanc, un corps d'homme blanc...
Il a le choix.
Il est neutre.
Il est neutre. Il peut décider de n'être rien, d'être quelqu'un d'autre.
D'être un lambda, quoi.
Voilà.
Sauf que quand on pense à quelqu'un de lambda, je suis sûre que si ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent pensent à quelqu'un de lambda, ils vont penser plutôt à... un homme blanc, en fait. C'est la référence.
Tout dépend. Je ne sais pas comment... Mais en tout cas, en termes d'imaginaire collectif, il y a ce fameux début de sketch de Coluche qui est pour moi la plus grande punchline de tous les temps. C'est l'histoire d'un homme normal, blanc, voilà, qui raconte... que je trouve fantastique en une ligne comment raconter tout ça, quoi. Et donc, de fait, moi, en tant qu'artiste, et je pense que nous, en tant qu'artiste, pour mettre une ça dans le groupe, quand on se positionne, quand on décide de se mettre en scène... en jeu, on sait qu'on va falloir lutter contre tout ça. En tout cas, absorber ce qu'on peut symboliser pour essayer d'en faire quelque chose. Donc, ce n'est pas anodin.
Après, il y a autre chose aussi, comment les institutions, comment notre pays voit sa population noire. Déjà, elle l'empêche d'être au cœur de la vie de la cité. Comment elle s'y prend en refusant aux Noirs de participer à la mémoire collective. Et comment cette mémoire collective existe ? Elle existe par la fiction qu'on en fait. Quand on invente des Jeanne d'Arc, ça participe à créer une nation. Quand on crée le mythe de Vercingétorix, ça participe à solidariser le peuple, à créer une langue, à créer une histoire commune. Voyez comment la plupart des gens ne savent pas qu'Alexandre Dumas était un métis, ou un carteron, dirions-nous à l'époque. Voyez comme Alexandre Dumas, quand il parle des quatre mousquetaires, il raconte l'histoire de son père, comment on n'introduit pas cette histoire-là dans la présence africaine, dans la mémoire collective française. Donc, c'est la façon dont on est nié au niveau de notre travail, au niveau de notre application dans la fiction, qui fait qu'on ne peut pas exister en tant qu'individu et en tant que corps social.
C'est comme si on devait nous confronter et nous épouser un imaginaire dans lequel on nous interdirait de prendre part.
Mais cet imaginaire, c'est ce que vous disiez, donc un imaginaire hypersexualisé, bestialisé, de divertissement, c'est ça ? C'est quel genre d'imaginaire ?
Oui, c'est de cet ordre-là, oui.
Et souvent, quand on parle des Noirs ou des œuvres noires en France, on les associe soit à des mouvements politiques, soit à des mouvements sociaux. Jamais à la fiction. Quand on traite... regardez les films qui sortent au cinéma. Le traitement qu'on en fait... quand on parle des minorités dans ces films-là qui sont censés être de la fiction, eh ben on ne va s'attacher qu'à l'aspect social de ces minorités. Ah, ils vivent dans un immeuble. Ah, ils trouvent pas de travail. Ah, il y a de la délinquance, etc. Mais est-ce qu'elle existe où, la fiction ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand Chester Hems il parle des Afro-Américains de son époque.
Donc, ce grand romancier américain.
Exactement. Et qu'il en fait une pure fiction qui va ensuite inspirer d'autres réalisateurs qui vont donner lieu à des Starsky & Hutch, qui vont donner lieu à du Training Day, etc.
Oui, au-delà des clichés qu'on a, donc c'est le rappeur, le footballeur, et puis après, ça c'est pour les
qui
modèles...
Qui sort pas de son rôle.
Oui, voilà, exactement. Qui sont dans un rôle... voilà, et puis après, il y a tous les rôles négatifs, c'est le délinquant, le sans-papier, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de la différence entre être une femme noire en France et un homme noir en France? Quelle est la spécificité de, justement, du genre associé au fait d'être noir?
J'aime pas parler au nom des femmes parce que je suis pas une femme.
Ok, super,
c'est
très bien.
C'est compliqué. Mais je vais juste parler de l'expérience d'un homme qui regarde les femmes, tout simplement, et ça ne tiendra que, ce n'est que ma parole qui sera mise en jeu. C'est que on permet aux femmes de sortir. La femme noire, elle a le droit de sortir de la cité. Elle sera beaucoup moins contrôlée que l'homme
noir. Vous voulez dire par la police ?
Par la police. Elle aura plus facilement accès aux boîtes de nuit, plus facilement accès aux restaurants, aux lieux de culture, etc. On va dire qu'il y a une sorte de tolérance. Pourquoi ? Parce que ça participe encore d'un mouvement préconçu, de néocolonial, de cette idée qu'on va civiliser l'homme noir en copulant avec son épouse. Il y a cette idée qui est assez horrible, je vois la tête que vous faites, mais il s'agit également de ça quand on dit les choses. Quand tu vas en boîte de nuit avec tes cousines, les cousines rentrent, mais pas le cousin. Donc ça participe à ce mythe colonial de la colonisation par le sexe et par le ventre.
Il y a aussi par-dessus ça, par-dessus ce que tu dis, il y a aussi cette chose très sexiste qu'un homme est plus dangereux qu'une femme et que par conséquent l'homme noir qui est considéré comme dangereux, on en parlait par rapport à la police, la femme noire sera moins dangereuse. Léonora Miano le dit dans son texte, elle explique bien comment parallèlement à son compagnon qui était sur le territoire, elle n'a pas du tout vécu la même chose.
Et elle dit aussi qu'il y a cette idée que la femme noire est vue comme souffrante et comme opprimée par l'homme noir. Et donc l'homme noir a tous les défauts, tous les vices, et il s'agit de l'empêcher de nuire et de libérer...
Et d'émanciper la femme noire.
Et d'émanciper la femme noire. Je voudrais qu'on reparle de la peur, parce que, comme on disait, c'est une émotion qui est très présente dans tous les textes qui sont dans ce recueil et aussi dans les vôtres. Insa Sané, par exemple, vous écrivez « Ma mère a toujours eu peur pour moi. Je savais pourquoi. Pour ces gens-là, je ne serais jamais qu'un jeune de moins à surveiller, de la viande faisandée, sinon un dommage collatéral. » Qu'est-ce que c'est que cette peur ?
Tout parent s'inquiète de ses enfants. Quand un enfant rentre pas à l'heure, on s'inquiète pas parce que je lui avais donné une consigne, il a pas respecté la consigne. C'est ce qui pourrait lui arriver, l'angoisse qui se crée de par son retard. Et ma mère, elle a toujours voulu nous faire croire à nous qu'on pouvait déjà devenir quelqu'un, il suffisait juste de nous battre et de nous imposer pour qu'on ne soit pas opprimé. Et elle a toujours eu peur de ce qui, en réalité, sans nous le dire directement, de ce qui pouvait nous arriver dans la rue. Notamment, elle a créé des mythes quand on était gosse. Quand je venais d'arriver en France, elle a dit non, tu peux pas aller dehors parce que ici on kidnappe les petits enfants. Elle nous sortait tellement de mensonges pour nous éviter d'aller trop loin, parce que à mon avis, faut pas oublier ça, les ratonnades de la fin des années 70 participaient à ce que les parents aient peur pour eux-mêmes, mais aussi pour les enfants. On parle très peu des ratonnades, on parle beaucoup des problèmes en banlieue, mais les bandes qui ont été créées, les bandes comme les Black Dragons qui ont été créées au départ, c'était exclusivement pour aller récupérer les parents qui sortaient du boulot, pour ne pas que les parents noirs, arabes, se fassent martyriser par les skinheads. Donc cette peur-là, elle existe, et elle accompagne les parents.
Est-ce que la peur, c'est aussi une émotion qui vous semble présente dans cette expérience ?
Il y a eu un spot, je crois que c'était fait par des Américains il y a quelques mois, que j'ai vu, où on voyait deux familles, une famille blanche, une famille noire, et à chaque fois c'était le père qui parlait au fils. Et donc t'as le père noir qui disait « Si la police te contrôle, pas de gestes brusques, tu vas tout doucement, tu ne t'emportes pas. » Et j'ai halluciné parce que c'est exactement ce que je dis à mon fils.
Qu'est-ce que vous dites à vos fils ?
À mon fils aîné qui a 19 ans et qui...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la table.
En plus, a un gabarit qui est vraiment costaud, ce qui donc est vraiment la figure effrayante pour un policier lambda. Je lui dis ça. Donc, s'il y a un contrôle, tu fais pas le fou, tu leur parles pas. C'est quelqu'un qui aime bien établir le dialogue. Donc, je leur dis, si tu sens qu'il n'y a pas possibilité de dialogue, tu laisses tomber, tu ne t'emportes pas, tu n'insultes pas, etc., etc. Et j'ai extrêmement peur de ça. Et le souhait de montrer ce père qui disait ça, et puis quand on arrive sur la famille blanche, il y a le père qui dit à son fils, qui dit, s'il y a le moindre problème, t'hésites pas, t'appelles la police. Et c'était assez criant. Et ce qui m'avait marqué, moi, alors que je suis quelqu'un qui pense qu'on n'est pas dans un pays, enfin la France c'est pas un état des États-Unis, c'est vraiment une autre histoire, voilà. Et j'ai été frappé de voir comment à deux endroits différents du globe, ou à plus d'endroits encore différents du globe, on pouvait tenir le même propos, sachant que notre enfant pourrait être une cible de la police.
Vos textes répondent vraiment là-dessus, c'est qu'en fait, dans la confrontation avec la police, il y a une histoire de virilité, en fait, qui se joue très très fort.
Moi, j'aime bien l'appellation lutte de virilité plutôt que virilité, parce que si je dis... moi, la virilité n'est pas un enjeu.
Mm-hmm. Je n'ai pas pour... Oui, vous le dites après, non.
Voilà, je n'ai pas pour but d'être viril, c'est pas une question que je... Si, voilà. Par contre... La même façon que des gens dans les situations X ou Y peuvent vous renvoyer le fait que vous avez l'air différent de par votre couleur de peau, de par comment vous êtes habillé, de par vos tatouages, il y a des gens qui vont vous montrer qu'ils sont plus masculins que vous et on va être confronté à cet enjeu-là, alors que ce n'est pas du tout notre enjeu. Et du coup, on se retrouve dans une lutte très très particulière.
Oui, parce que ça, vous le décrivez tous les deux. Par exemple, Insa Sané, vous dites, vous êtes en train de fumer une cigarette, vous faites contrôler par la police qui contrôle votre identité, vous demandez à ce qu'il ne vous tutoie pas, il vous embarque, et là, vous expliquez qu'il vous demande de vous dévêtir et qu'il commande votre sexe. Et donc, on s'est dit, mais là, c'est pas une lutte de virilité, pour le coup, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se joue quoi à cet endroit-là? Qu'est-ce qui se passe quoi dans cet instant? Qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai du mal à me mettre à la place de ces gens-là parce que j'ai jamais réagi comme eux ont réagi. Il y a peut-être cette concurrence, cette lutte de la virilité qui a lieu, mais avant de parler de ça, j'aimerais juste souligner une chose qui m'a quand même marqué lors de cet épisode, c'est que j'étais à terre. Donc, il devait avoir, je sais pas, 6 ou 7 policiers qui me maîtrisaient, et je ne me défendais pas. De toute façon, je ne pouvais plus me défendre.
J'étais en train de mourir. Vous le dites, hein.
Oui, j'étais en train de mourir. J'étais en train d'étouffer, et une femme crie. ils vont faire quelque chose, ils vont le tuer. Et un homme répond, s'il en est là, c'est qu'il a bien cherché. Donc, il y a cet imaginaire également, quand on montre les cités, qu'on n'arrête pas de faire croire que, qu'il n'y a que des sauvages, que c'est la zone, qu'il n'y a que des drogués, que des dealers, que des prostituées, etc., que c'est violence. Eh bien, si un flic fait mal son job et tue un enfant noir, l'enfant noir l'a cherché. Ah bah écoutez, on va sortir les dossiers, on va dire, ah mais il avait un casier judiciaire, sans expliquer c'était quoi son casier judiciaire. Ah bah s'il avait son casier judiciaire, bah forcément c'est un méchant, on va être dans ces raccourcis-là.
Oui, mais ça rappelle l'affaire Adama Traoré, ce qui s'est passé.
Exactement. Et puis effectivement, quand tu te retrouves, quand t'es blanc, tu sors d'un petit village, t'as jamais vu de noir, tu débarques à Paris, et que là tu te retrouves face à un noir et que tu as l'occasion de l'humilier, pourquoi tu vas te gêner ? Surtout que tu as grandi avec un certain imaginaire du noir qui est un sexe ambulant, qui prend
tiens, on le voit, c'est très frappant dans le porno,
etc.
En fait.
Enfin,
c'est
quand même dans le porno, mais pas seulement dans le porno.
C'est une étiquette spécifique, quoi. C'est incroyable comme l'imaginaire,
dans la
ça
musique,
envahit, quoi.
Dans le cinéma, dans la littérature, on te présente toujours l'homme noir comme celui qui va venir satisfaire la gendarme blanche.
Et là, on est dans les résidus de l'esclavage, quoi. C'est vraiment la suite. J'ai l'impression qu'on est trois jours après l'esclavage et qu'il faut encore passer du temps à nettoyer ces imaginaires-là. Et effectivement, que ce soit le policier, l'employé de bureau ou la personne avec qui vous êtes en conflit, il y a un moment donné où cette chose-là va prendre le dessus. Et vous allez devoir, vous, en tant qu'homme, déjà en tant qu'homme, et en plus en tant qu'homme noir, devoir lutter contre cette chose-là. Et ça, c'est très, très particulier.
Et encore, pour aller plus loin, ce fantasme peut te rejoindre jusqu'au lit. Un jour, j'ai eu une aventure avec une fille et on est en train de se dévêtir, on va pour faire l'amour et elle me dit à ce moment-là, tu sais, moi, je crois que j'ai l'âme black. Alors, tout de suite, ça l'a rendu. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais ? Je dis, mais c'est aussi con que si moi, je t'avais dit, tu sais, moi je crois que j'ai l'âme white. Comment t'aurais pris ça ? T'aurais pas pris ça pour du racisme, pour un truc super idiot ? Pourquoi tu vois ça ? Tu vois le noir ? Tu peux pas.
C'est-à-dire que vous n'êtes jamais vous-même. En plus, vous n'êtes jamais pris comme individu, en fait. C'est comme toujours renvoyé à cette
bêtise,
couleur de peau.
Malheureusement et heureusement que j'ai pas fait l'amour bêtement.
Mais c'est intéressant que vous. Donc, merci déjà de partager quelque chose de. Une histoire qui vous est personnelle et qui est intime, parce que justement, j'avais envie maintenant de vous demander quelles conséquences ça a, vous, dans vos vies. Vous êtes deux artistes. Comment est-ce que vous ressentez cela ? Qu'est-ce que ça a pour conséquence dans la manière dont vous vous sentez homme et dans la manière dont vous vous percevez ? Peut-être dès vous avez vraiment énormément réfléchi sur la masculinité. Vous avez écrit dessus, vous avez fait toute une pièce qui s'appelle « L'homme-femme, les mécanismes invisibles ». Enfin, c'est vraiment une question qui vous
c'est une
qui
question,
vous habite particulièrement.
Qui m'a déjà, moi, agité et animé pendant de nombreuses années, mais d'un point de vue privé et intime. Et ensuite, à force de travail et de réflexion, je me suis dit que ce que j'étais en train de toucher, ce que j'étais en train de déterrer, ça pouvait être intéressant de le partager, quoi. Et moi, l'art, pour moi, c'est ça. C'est ce qui fait lien entre moi et les autres. C'est ce qui fait partage. Donc, j'ai commencé à creuser et à pousser. Et c'est vrai que moi, dans un premier temps, il y a eu deux choses. Il y a ce truc de communauté, quoi. C'est-à-dire que un jour, je vais revenir très vite. J'étais à Dakar pour une tournée et débarque dans le petit restaurant du coin. Une bande, vous savez, ces gens-là qui font des belles causes, qui vont en Afrique faire dans des ONG, etc. Ces gens qui sont vraiment pétris de bonnes intentions. Ils débarquent à 10 ou 15 et ils commencent à danser pour singer les gens qui dansaient, qui étaient des gens, des Sénégalais qui dansaient. Ils commencent à imiter les Sénégalais qui dansaient. C'était vraiment très, très grotesque. Et l'ami qui était avec moi, qui était blanc, disait « Putain, j'ai honte d'être blanc ». Et cette phrase-là a hyper résonné en moi et je trouve ça super intéressant. Et il me disait, mais putain, mais qu'est-ce que je suis mal, qu'est-ce que je déteste ces gens-là, mais qu'est-ce que j'ai honte d'être là comme eux, et j'ai honte de leur ressembler, quoi. Et en fait, moi, à chaque histoire un peu sordide, de viol ou d'agression, il y avait cette partie de moi qui appartient à la communauté des hommes, du masculin, qui était vraiment mal. Et je m'étais dit, il y a quelque chose à faire, il y a une part à prendre qui est la nôtre. En tant qu'homme, il faut travailler sur ce sujet-là, il faut qu'on creuse. Donc ça a été ça. Par ailleurs, j'ai vu comment j'ai grandi, quelle était mon histoire, et ce truc un peu caricatural, un peu schématique de, grosso modo, on apprend aux filles à dire non et on dit aux garçons foncez, vous allez voir, tout va bien se passer. J'ai deux garçons, deux filles, et l'une des premières choses que je me suis dite, c'est je veux absolument apprendre à mes garçons à dire non. Voilà, ça a commencé comme ça.
À dire non, c'est-à-dire ?
Dire non à un rapport sexuel.
Alors qu'on dit aux garçons, vous devriez toujours être d'accord, toujours être content, toujours...
Ouais, c'est la petite tape sur l'épaule, tu vas voir, fonce, dans le doute, tu fonces, ça va bien se passer, quoi. Et j'ai absolument voulu être à l'endroit de la transmission sur l'intime, avec mes garçons, c'était la première démarche. Et donc,
mais pardon, mais en fait, on dit souvent que dans une démarche féministe, il faut apprendre aux garçons le consentement, parce que le consentement des filles, et le leur aussi, mais le consentement des femmes...
Le consentement des filles. C'est ça.
Oui.
Mais pas le leur aussi. C'est-à-dire que la suite de la phrase, les gens ne vont jamais jusqu'au bout de cette phrase.
Mais déjà, la première, c'est rare qu'on l'entende quand même. C'est-à-dire l'idée que là, par exemple, on est en pleine affaire de harcèlement et tout. On entend qu'il faut que les filles apprennent à se protéger, mais on n'apprend pas. Bah, peut-être qu'il faut que les garçons arrêtent de harceler. Peut-être que les garçons doivent arrêter de violer. Peut-être qu'ils doivent arrêter d'attaquer, etc. Donc, vous, comment vous avez articulé ça dans l'éducation que vous avez donnée à vos filles?
Enfin, l'éducation, je suis en train, c'est pas fini. Mais il y a aussi ce truc de, effectivement, on demande d'interroger le consentement. Mais sur une question qu'on n'arrive même pas à se retourner soi-même. C'est-à-dire qu'il faut apprendre quelque chose qu'on n'utilise pas, qu'on n'éprouve pas. Quand ça m'a sauté au visage, je me suis dit qu'il fallait que je travaille là-dessus. Et donc voilà. Et donc pour ceux qui n'ont pas d'enfants, moi je lis souvent des trucs sur les réseaux sociaux, mais les gens n'ont qu'à dire aux enfants que. C'est pas comme ça que ça marche. L'éducation, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
C'est l'exemple aussi, beaucoup, quand même.
C'est, voilà, c'est qui on est, qu'est-ce qu'on incarne et comment ça bouge. Et puis, je ne suis pas le même homme qu'il y a 15 ans. Voilà, il y a des choses qui se modifient aussi avec nos attitudes.
C'est une histoire de modèle. Vous, avec quel modèle? Ça, c'est une grande question, mais si on parle de vous personnellement, avec quel modèle d'homme vous avez grandi et quel est le modèle que vous voulez incarner?
Alors, on arrive à une question qui est très, très épineuse. C'est-à-dire que moi, je suis un jeune noir de Bobigny, d'accord? Et à l'époque, mes modèles... Je le dis honnêtement, hein, c'est Mike Tyson, Bill Cosby. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
non, je veux bien que vous explicitiez.
Bah, Bill Cosby est quand même très très mouillé dans une affaire très très dégoûtante de viol à répétition sur pas mal de personnes. Mike Tyson était écroué pour viol. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on est déjà dans l'ambiguïté du masculin, quoi. C'est-à-dire que, et c'est pas un truc qui est spécifique au noir, hein. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans quel type de modèle les hommes ont à disposition. Voilà. Michael Jackson. Très compliqué. Donc, et moi, quand je suis devenu. C'est pour ça que je parlais de Todar à 24 ans, quand je suis devenu noir à 24 ans, j'ai pris tout ça en même temps, quoi. C'est-à-dire que j'ai grandi sans père, comme ça peut arriver, comme beaucoup. Et du coup, je suis obligé de fabriquer un modèle qui n'existe pas. Je suis obligé de partir de zéro, en fait. C'est-à-dire que j'invente un père que je n'ai pas eu, du tout. Je n'ai pas du tout grandi avec lui, j'ai rencontré très, très tard. Et donc, je me fabrique à partir de ce que je suis, de ce que j'ai. Voilà. Et pour le coup, là, c'est vraiment la façon dont fonctionne avec mon épouse qui a fait que je suis qui je suis.
Et vous, Insa, Samy ?
La figure paternelle, c'était ma mère. Mais même du vivant de mon papa, ma mère a toujours été le chef de famille. Elle a toujours dirigé, mais parce qu'elle vient d'une société matriarcale où c'est comme ça, où c'est normal. Malgré tout, et j'en reviens un peu à ce que disait Ded, c'est que... Pendant une période qui a été très longue, je m'intéressais à plein d'autres choses qu'aux filles. Et ma mère n'avait de cesse que de vouloir nous caser, les plus grands de la famille. Donc, il y avait souvent des mariages, etc. Et puis, tu trouves pas qu'elle est mignonne, cette fille? Tu trouves pas que nanana, elle t'aime bien, etc. Ça m'intéressait pas. Au bout de quelques temps, elle m'invite à discuter avec elle. Et elle me dit, je trouve que tu ne t'intéresses pas assez aux filles. Tu sais, j'accepterais que tu sois homosexuel, on peut en parler. Donc, il y a aussi ça, comment tu construis, quand on parle des violences des garçons faites aux filles, des violences sexuelles, c'est aussi avec cette éducation qui voudrait qu'un garçon, il est obligé d'être attiré par toutes les filles.
Tout le temps.
Tout le temps. tout le temps et il doit assurer tout le temps. D'ailleurs, dans le porno, on le voit très bien, l'homme, il doit être toujours en érection. On fait croire que un coït doit durer des heures. On fait croire à cette puissance masculine qui est complètement un mythe et qui est complètement infondée.
Qui est fictionnel pour le coup.
Qui est fictionnel et surtout le plaisir de l'homme. Les points érogènes des hommes, on ne les interroge pas non plus.
Surtout, c'est le culte du coït, quoi.
C'est-à-dire exactement.
On est que dans des rapports génitaux, quoi.
Exactement.
Comme si la sexualité, c'était que ça.
Exactement. Et donc, ma mère.
Et puis, à propos de points érogènes, par exemple, c'est quand même très frappant l'oubli complètement à part chez les homosexuels de l'analité, par exemple.
Exactement.
C'est un truc. Alors que c'est à l'évidence une zone érogène physiologiquement. Enfin,
ne serait-ce que la poitrine.
Oui, aussi.
Aussi.
Bien
mais
sûr.
Dès l'instant où tu vas en discuter avec tes potes, ils vont te dire « Mais t'es un PD, toi, en fait !» Donc, il y a toutes ces interrogations sur notre corps, mais sur le corps des filles qu'on connaît très peu. Également, en tant que garçon, les filles en savent plus sur les garçons que le contraire, qui se posent. Et ma mère, elle a beau avoir vécu dans une culture matriarcale, elle a beau s'être imposée, c'est une figure également... je vais pas dire c'est une militante féministe, mais de par son caractère, de par ce qu'elle a réussi à faire, gérer 8 enfants toute seule en leur inculquant des valeurs de base, et ben ça fait d'elle une femme forte, mais n'empêche qu'elle a gardé ce truc là et cet épisode, je le garde encore en mémoire parce que c'est aussi comment même les femmes voient les hommes.
On arrive à la fin, largement.
Non.
Est-ce qu'il y a des choses très importantes dont on n'a pas parlé, qu'il faut absolument parler des notions autour des masculinités noires en France aujourd'hui ?
Qu'on arrête déjà d'avoir peur, parce que la peur n'a jamais été motrice de réconciliation. Qu'on arrête d'avoir peur, qu'on arrête de regarder ces images imbéciles qui nous foutent la peur, aussi. La peur dans les deux sens. Le blanc qui vit dans son village, qui n'a jamais vu un arabe, qui n'a jamais vu un noir et qui prend comme vérité absolue tout ce qu'il voit à la télé, tout ce qu'il lit dans les bouquins, tout ce qu'il lit dans les journaux. Le noir qui doit arrêter d'avoir peur de sortir de sa cité parce qu'il a peur des contrôles d'identité, alors que malheureusement, s'il ne sort pas de sa cité, il n'aura pas la culture. Et donc, briser les... Bah oui, parce qu'il faut aussi reconnaître que au niveau architectural, la colonisation a bien fait les choses. C'est que quand t'habites dans une cité glauque, et ben t'as pas de cinéma, t'as pas de théâtre à côté de chez toi, t'as pas de lieu de culture à côté de chez toi, chose super belle à Clichy-sous-Bois après les émeutes de 2005. Qu'est-ce qu'on a construit pour essayer d'apaiser un peu les temps? Un commissariat high-tech, d'accord ? Donc c'est génial de construire un commissariat high-tech, mais est-ce que c'était nécessaire d'alimenter la peur encore plus ? Donc c'est ça, arrêter d'avoir peur et surtout, moi ce que je dis à mes gamins, déjà je veux pas leur filer les peurs que j'ai pu avoir.
C'est la fin de votre texte, vous dites vous voulez pas qu'ils aient peur.
Je leur dis, vous vivez votre vie en ayant toujours la conviction d'être un mec bien, en ayant toujours la conviction que tu tomberas pas sur un mur, que tu dois tout le temps être optimiste. Il y a rien qui va t'arriver. Allez, vas-y, tu peux nager, t'inquiète pas, il y a rien qui va t'arriver. Il y a pas de requin, il y a pas de tout ça. Voilà.
Avant de terminer, est-ce qu'il y a des œuvres que vous aimeriez recommander sur ce sujet pour le prolonger ?
Ouais. Alors, malheureusement, il est plus disponible en librairie. C'est Chester Himes, l'auteur, et c'est Plan B de Chester Himes. C'est l'un de mes bouquins favoris, je l'adore. Il est introuvable depuis un certain temps.
Mais chez les bouquinistes, je crois qu'il en reste quelques exemplaires. Pourquoi vous aimez ce livre-là ? Pourquoi vous voulez le recommander ?
Parce qu'il parle de l'oppression des Noirs aux États-Unis pendant la ségrégation et de comment pouvoir s'émanciper, comment ces Noirs peuvent s'émanciper par la révolte. Et c'est complètement grotesque, c'est à la fois juste mais grotesque, drôle, triste, enfin c'est un bouquin qui nous arrache plusieurs émotions en quelques pages. C'est le meilleur bouquin de Chester Himes à mon sens.
Et D, quelle est l'œuvre que vous voulez recommander ?
Ce serait Rage Noire de Jim Thompson. Pour plusieurs raisons. La première étant que je ne me rappelle plus de ce que j'ai lu, mais ce que ça a laissé en moi est toujours présent. C'est une espèce de vertige, des sens et des émotions assez troublants. Et d'autant que j'ai compris vraiment longtemps après que le mec qui a écrit n'était pas noir, quoi. Et pour moi, c'était une leçon d'art. C'est-à-dire que quand tu tiens ton art, tu peux faire tout ce que tu veux. Et ça, je trouve ça... Enfin, vraiment, c'est vraiment un bouquin qui fait date chez moi.
Merci beaucoup à tous les deux. C'était le 4e épisode des Couilles sur la table, le podcast de Binge Audio sur les hommes.
J'arrive pas avec ce titre.
Et les masculinités. Vous voulez qu'on en parle ?
C'était.
Bon, mais c'était quand même le 4e épisode des Couilles sur la table, le podcast de Binge Audio sur les hommes et les masculinités. Toutes les références sont à retrouver sur le site binge.audio. Merci d'avoir partagé les derniers podcasts autour de vous. C'est très encourageant pour moi d'avoir vos retours, vos suggestions, vos critiques et vos remarques. Donc n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire. Pour l'instant, je réponds à tous ceux qui m'écrivent. Donc merci beaucoup. Et puis bisous et à bientôt.
Binge.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des Couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste ? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter ? Comment vivre avec ? Et les agresseurs ? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs ? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la table.